C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour, soyez les bienvenus pour notre deuxième rendez-vous pour aller à la rencontre des artistes aquarellistes invités par l'association Aquasol à Douai jusqu'à la fin de semaine. Proposent leurs œuvres, salle d'Anchin à Douai, c'est en entrée libre. Et aujourd'hui, deux autres rencontres après avoir rencontré hier Yannick Verger et Jean-Paul Chiffrine. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'univers de Marie-Françoise Ingels, venue de Belgique.
Je suis une rêveuse d'abord. Et donc j'ai commencé par de l'aquarelle assez figurative. Et puis j'avais une insatisfaction dans ce que je faisais. Puis j'ai rencontré une artiste belge qui s'appelle Nicole B. et qui est une artiste qui travaille dans l'abstraction. Et ça a été vraiment pour moi un chemin de liberté que j'ai trouvé là. Et un moyen d'expression extraordinaire. Donc la technique de l'aquarelle, je voulais absolument la garder. Mais voilà, je me suis dirigée plus vers ce qui est abstraction, imagination. Parfois, je me promène un petit peu entre les deux. Dans certains tableaux, on voit encore des éléments un petit peu plus figuratifs. Mais voilà, c'est le rêve, la nature aussi m'inspire beaucoup, les voyages et puis la couleur.
Qu'est-ce que l'on cherche à exprimer ? Une émotion, une sensation, quand on est dans ce domaine-là ?
C'est d'abord une émotion, donc ça part vraiment de l'intérieur, d'émotions vécues, d'émotions qu'on a envie de transmettre. Et puis on part ensuite dans, je vais dire, son trip intérieur. Mais on a envie de faire sortir quelque chose en tout cas et de le communiquer.
Ça passe par le choix de la couleur ou par la géométrie et la spatialisation de ce que vous donnez ? Parce qu'il y a les deux qui sont intimement combinés là.
Mais souvent, moi, ça part quand même de la composition, donc une certaine structure. Et puis, très vite, je choisis les couleurs. Mais parfois, au cours du travail, je vais un petit peu modifier la couleur. La composition, rarement. Elle est là, je vais dire, au départ. C'est un petit peu le canevas qui est la base du travail. Et puis après, la couleur, elle permet, voilà, on peut encore superposer des couleurs, faire des lavis superposés. Je travaille beaucoup par couches superposées. Donc on a, par exemple, ici, ce sont des premiers lavis très très clairs. Et puis ça monte tout doucement en valeur. Et donc la couleur se modifie au fil du temps, se renforce. Ou voilà, au contraire, reste plus douce ou plus nuancée.
Vous les fabriquez, vos couleurs ?
Je ne les fabrique pas, mais parfois je travaille avec des pigments naturels qu'on mélange avec de la gomme arabique ou même parfois de l'eau avec du sucre. Mais bon, dans les tableaux comme ça que j'expose, je ne fais pas ça, quoi. C'est plus expérimental.
Il y a toujours le fait de pouvoir s'exprimer à travers ce qu'on sait faire et puis le cadre de la recherche, de laisser. Ça fait partie, ça, de la vie normale et logique d'une artiste.
Oui, oui. D'autant plus que je donne des cours, donc j'aime bien mettre les élèves dans des conditions un petit peu expérimentales. Donc on ose tout, on ne se donne pas de limites. Et du coup, bah oui, parfois dans les tableaux, on retrouve ça aussi, des choses qu'on a découvertes ensemble et voilà, qu'on essaye.
J'ai dit artiste, à quel moment on devient artiste ?
Oh, je crois que tout le monde l'est. Tout le monde l'est, à la naissance, je veux dire. Après, on ne développe pas ça nécessairement, mais je crois que tout le monde l'est. On a ça en nous.
Pourquoi vous avez osé rester ou redevenir artiste que vous étiez peut-être déjà avant ?
Au départ, moi, je dansais. Donc, je ne peignais pas, je dansais. Au départ, j'étais une danseuse et il fallait que je m'exprime de cette façon-là. Donc, que ce soit par la danse ou par la peinture, ça s'est transformé au fil du temps. Mais je crois que j'ai toujours été petite, je dessinais. Donc, voilà, j'ai toujours été attirée par ça et j'ai toujours vécu là-dedans, quoi.
Alors, voilà, vous parlez de danse et depuis tard, c'est ce que je me dis. Moi, j'y vois beaucoup de mouvements dans ce que vous peignez. Là, il y a une dynamique, hein, ou qui nous entraîne d'un côté à l'autre, et on suit, on est obligé de regarder l'œuvre de gauche à droite, ou alors en profondeur, on nous emmène. Et c'est, voilà, l'idée du mouvement, elle est quand même, c'est vraiment ce qui compte. Hein.
Enfin, ça me fait plaisir parce que bon, moi, j'étais professeure d'éducation physique, hein, dans ma carrière professionnelle. Et puis, danseuse, comme je vous ai dit. Et quand j'ai arrêté la danse, c'est vrai que j'avais besoin de transposer le mouvement. Je ne pouvais plus le faire avec mon corps parce que je vieillissais, on va dire. Mais il fallait que je le transpose autrement, quoi, voilà. Donc, c'est bien que vous l'ayez vu.
C'est quoi, ça ? Ces petites taches, c'est un accident, c'est volontaire, c'est...
Alors, en Belgique, on appelle ça des spitures. En France, peut-être des éclaboussures, je ne sais pas. Mais c'est volontaire et c'est ce qui permet de faire le lien et donner en effet le chemin de lecture du tableau. Parce qu'on part avec les orangers et puis on s'en va et puis normalement on revient par les orangers. Donc c'est créer une circulation dans le tableau.
C'est inné ou c'est réfléchi avant ou ça vient au fur et à mesure de la réalisation ?
Alors il y a des choses qui sont quand même en arrière du cerveau, je vais dire, raisonnable. Donc il y a des choses qu'on sait au niveau d'équilibre. On va se demander à un moment donné si les couleurs sont équilibrées, s'il faut rajouter des petites touches pour justement faire circuler le regard. Mais au départ de la création, c'est très spontané, enfin, chez moi en tout cas. Je ne sais pas où je vais au départ et c'est au fur et à mesure que se construit l'idée finale. Mais comme je vous disais, il y a quand même toujours une structure de départ, quoi.
Une couleur, elle a le droit d'être agressive, voire irritante.
Provocatrice, hein, oui, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas.
Il y a des tons que vous préférez ou des choses que, enfin, dans lesquelles vous ne épanouissez pas ou...
Alors moi j'adore les bleus, hein, donc...
Et les oranges peut-être aussi.
Les oranges, ouais, c'est des couleurs complémentaires, donc on ne peut pas se tromper là. Mais les bleus, dans mes boîtes d'aquarelle, c'est les bleus qui débordent, quoi. Mais bon, j'aime bien aussi les jaunes, voilà, les orangés, j'aime bien les couleurs lumineuses en fait. Et tout ce qui se marie bien avec le bleu, c'est toutes les couleurs chaudes, donc moi je suis ravie avec ça.
On n'a pas besoin forcément de modèle, ou alors il y a quand même un modèle derrière tout ça.
Donc ici, c'est de l'abstrait. Hein. Parfois, on peut partir d'un modèle. Donc on peut partir, par exemple, d'une photo, mais prise à l'envers, par exemple, pour que le cerveau gauche il ne réfléchisse pas trop. Donc on a la structure, la composition. On part d'une bonne photo de paysage ou même une revue, hein, une photo dans une revue. Et puis, on a une composition. Et puis de là, on part dans son imaginaire, quoi.
Donc sur une œuvre abstraite, du moment où vous posez votre signature, c'est vous qui dites c'est dans ce sens-là qu'il faut la regarder.
Alors là, le sens, parfois on n'est pas d'accord. Donc mon mari et moi, on est rarement d'accord. Donc souvent, je ne les signe plus. Comme ça, les gens, ils le mettent dans le sens qu'ils veulent. Donc il y en a quelques-unes qui ne sont pas signées et je signe au dos du tableau.
C'est important pour vous, ces moments de rencontre avec d'autres aquarellistes, rencontre également avec le public.
Oui, c'est fondamental, cette rencontre avec le regard de l'autre. Ce que les autres font, bien entendu, aussi, et c'est fondamental. C'est ce qui nous donne envie de continuer et voilà, avoir l'énergie de progresser, de continuer et puis voilà, d'y prendre plaisir. Oui, c'est fondamental.
Il y a un attachement particulier avec quelques-unes de vos œuvres ?
Oui, oui. Je vais dire de moins en moins, parce que si on s'y attache trop, on ne les vend plus. Et bon, à un moment donné, on n'a plus de place dans la maison. Mais oui, il y en a quand même qu'on aime bien, oui. Il y en a qu'on préfère et quand elles sont vendues, si elles vont chez des gens qu'on aime bien, ben, c'est chouette, quoi.
Notre monde a vraiment été bouleversé en profondeur au cours de ces deux dernières années pour cause de pandémie. C'est passé des choses qu'on n'aurait jamais imaginées tant que ça nous paraissait au bout du monde. Ça pouvait se passer, des confinements là-bas, quand ça arrive chez nous, quand... Tout est remis en question. Est-ce que ça a finalement un impact sur votre façon de créer ? Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous ?
Alors pendant le confinement, c'est vrai que j'ai eu une période un peu difficile où la création ne venait plus, où l'envie ne venait plus. Et puis, je me suis quand même donné la discipline de travailler tous les jours au moins une heure. Puis, j'ai fait pas mal de choses aussi par Internet. Il y avait des concours, des expositions virtuelles. Ça nous donnait quand même un certain défi. Donc là, je me suis remise à travailler. Et puis maintenant, non, je ne crois pas que maintenant, ça a encore un impact sur moi. Je ne crois pas.
Il y a des moments de la vie quand même où on retransmet ce que l'on vit, ce qui nous fait être nous à ce moment-là, son état de forme, sa joie de vivre ou sa morosité, ça se ressent ça dans le travail d'une artiste ?
Oui, probablement. Chez moi, je ne crois pas tellement parce que, je ne sais pas, si je peins, c'est pour donner quelque chose de joyeux. Bon, il y a des tas d'artistes qui créent dans la douleur, la souffrance, la difficulté, et qui pour eux, c'est le moteur. Moi, pas du tout, c'est plutôt le contraire. Donc j'essaye de ne pas être trop influencée par les choses négatives qui m'entourent et de rester vraiment connectée à ce qui est beau et bien. Voilà.
Si on vous demande, c'est où ça ? C'est qu'on n'a pas compris ce que vous cherchiez à faire ?
Oui, tout à fait.
Peu importe de où c'est.
Exactement. C'est où vous voulez. C'est où vous voulez, c'est où je veux, c'est surtout où vous voulez.
C'est un luxe, ça, que d'emmener la personne là où elle souhaite aller.
Ben oui, je trouve aussi.
Ouais, c'est incroyable. Il y a peu de choses qui permettent de le faire.
Ben oui, mais l'art nous permet de le faire, donc je trouve que c'est bien, oui. C'est vrai que quand on essaye de reconnaître des choses, parfois je suis un peu fâchée parce que je me dis c'est pas nécessaire, quoi. Enfin, c'est pas ça le but. C'est plutôt voyager où on veut et voilà, et soit voir ce qu'on a envie d'y voir, quoi.
Vous rêvez en aquarelle ?
Je rêve, oui, je rêve très souvent et je rêve en aquarelle aussi, oui.
C'est quoi un rêve en aquarelle ?
C'est quoi ? C'est bon, c'est beau. C'est quoi exactement ? Je ne peux pas le définir, mais... Ça vient du subconscient, ça vient de l'inconscient et ça vient d'un rêve de mieux, d'un rêve de...
Moi j'aime bien, c'est, vous savez, m'imprégner d'une œuvre, fermer les yeux et continuer à la voir les yeux fermés. Je trouve que ça a un côté magique, c'est comme si elle rentre en moi, une façon de la manger. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je comprends et c'est vrai qu'on a plutôt l'impression que dans les musées, on a envie de faire autre chose, de faire la photo de l'œuvre, comme si on avait peur qu'elle nous échappe, alors que si on l'a vue, elle est en nous, quoi. Donc, c'est à nous d'en garder ce qu'on a envie.
Celui qui achète une œuvre, c'est quoi ? C'est un égoïste qui ne veut rien que pour lui ou c'est un mécène ?
Ben, je sais pas, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur et qui a envie de continuer à avoir ce coup de cœur et à le regarder. C'est vrai que peut-être qu'on s'en lasse, donc est-ce qu'il faut vraiment acheter une œuvre d'art qu'on aime bien ? Je prêche pas pour ma chapelle, évidemment, en disant ça.
Il y a des tableaux chez vous ?
Plein.
Que les vôtres ou d'autres tableaux ?
Il y a d'autres tableaux aussi, notamment de la personne qui m'a donné l'envie de partir dans ce monde-là. Maintenant, ma maison n'est pas très grande, donc il y a beaucoup de tableaux de moi, en effet, quand même.
Tout à l'heure, votre confrère me disait, moi, je ne peux pas donner des cours parce que je me sens que quand on initie les gens, on crée des sous-mois ou des élèves d'école ou quoi que ce soit. À quel moment vous avez-vous su définir votre propre travail par rapport à un exemple, à quelqu'un qui vous a interpellé ? Qu'est-ce qui a fait que vous allez pas faire la même chose, mais faire voilà, dans le même esprit, mais autrement et quelque chose de complémentaire ?
À partir de quel moment, c'est ça la question ?
Comment
ça s'est mis en place ? Petit à petit, hein, je ne peux pas définir vraiment quelque chose de très précis, mais en tout cas, ce voyage vers l'abstraction, je me suis dit, c'est celui-là que je veux continuer. Mais par contre, je sentais, bon, il y a très peu de profs qui donnent des cours d'abstrait, Je voulais aussi continuer à travailler en figuratif et je continue toujours à suivre des cours même en figuratif parce que j'apprends énormément au niveau technique, au niveau de, je veux dire, la chimie des couleurs, etc. Mais par contre, quand je donne des cours, j'essaye justement que chaque élève sorte avec un travail qui lui est propre. Et donc, je donne des consignes, mais je donne rarement un modèle à suivre. C'est-à-dire, je vais donner une consigne, des mises en situation qui va permettre à chacun de s'exprimer. Et c'est vrai qu'ils sortent tous avec quelque chose de totalement différent, mais ils ont suivi la consigne de départ, quoi. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas l'impression qu'ils font du Marie-Françoise Ingels, quoi. Bon, on est toujours influencé quand même, on a des trucs à donner, surtout, moi, je les donne, je ne les cache pas. Il y a des artistes qui ne veulent pas les donner, mais moi, je les donne pas, je les cache pas. Mais je remarque qu'effectivement, ils sont dans l'abstraction, mais ils sont aussi dans leur inconscient, leur subconscient. Et alors, je suis heureuse quand ils sortent comme ça et... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Ça me va parfaitement bien. Et enfin, est-ce que vous savez déjà la prochaine œuvre que vous allez peindre ?
Alors, je sais que je dois faire des tableaux pour une sélection. J'ai un délai là, mais je ne sais pas encore quel sujet je vais... Enfin, quel... Non, je ne sais pas encore la composition. Je sais que je dois en produire 4. Et je déteste ça, quand je sais que je dois absolument produire. Voilà, mais donc je ne sais pas trop. Je vais voir. Je vais me laisser imprégner par les voyages que je vais faire, puisque je vais partir bientôt en Corse. Et je suis sûre que là, ça va venir, quoi. Voilà.
Bah, profitez d'abord de la ville de Douai.
Ah, bien sûr.
Bon salon.
Merci beaucoup.
Et vous avez donc jusqu'à la fin de la semaine pour aller profiter des œuvres et rencontrer l'artiste Marie-Françoise Ingels à l'occasion du Salon international d'aquarelle de l'association Aquasol. Ça se tient au Salle d'Anchin à Douai jusqu'à la fin de la semaine. Dans un instant, un univers en noir et blanc et ô combien émouvant de jolis portraits, ceux de Pascal Pillon.
Viens là.
de retour aux salles d'Anchin à Douai ou jusqu'à la fin de semaine, l'association Aquasol vous propose son exposition internationale d'aquarelle. Quatre invités, dernier invité aujourd'hui à retrouver, c'est Pascal Pian.
Quelle famille ! Ah oui, le résultat de peu de contraception, ça peut être un petit peu une des causes. Hein, voilà. Oui, bah, beaucoup de portraits. Voilà. Mais bon, un peu des musiciens aussi. Hein, donc une famille de passionnés avec des belles attitudes sur scène. Hein, donc une thématique qui va bien pour moi. Et puis, en fait, l'humain, globalement, m'a rattrapé. Il me sort un petit peu de ma contemplation sur les arbres et le végétal en général. Et puis, il y a une telle puissance humaine, naturelle, hein, quand on croise des personnes. Il n'y a pas forcément qu'une histoire de rencontre. Il y a aussi une passion aussi de l'anatomie, quelque part, chez moi. Un peu inspiré de personnages tels que Ernest Mignon-Ernest, tout modestement en ce qui me concerne, mais il y a un petit peu de ça.
On va parler de peau, de cheveux et de regard, ouais, si vous le voulez bien, parce que ouais, c'est vraiment les trois mots qui me viennent. Vous êtes un artiste de la peau.
Ben, peut-être plus du regard et des cheveux.
Ah non, mais moi je trouve que... les joues, enfin, on sent le... Enfin, il y a beaucoup de...
Oui, la pigmentation,
Ben, en fait, c'est ce qui donne tout, hein, toute la profondeur finalement, ouais, et puis après il va y avoir ce qui va être au premier plan. Mais on a cette peau qui est là, qui fait le fond.
En fait, les carnations, souvent elles sont traitées par, avec beaucoup de réalisme. J'ai toujours été fasciné par les peintres hollandais sans chercher vraiment à faire la même chose, loin de là, du temps où je travaillais à l'huile et à l'acrylique. Mais ce qui est intéressant avec l'aquarelle, avec des jus légers, c'est que le papier vient faire une alchimie avec le pigment, et on peut travailler justement les textures et la peau. Et ça fait, enfin, j'ai le sentiment que ça donne beaucoup plus de puissance humaine à mes compositions. Puis après, je ne me pose pas toutes ces questions, quoi. Je prends mes pinceaux, je peins et... J'essaie de retranscrire quelque chose qui ne soit pas trop axé sur le beau, je le dis souvent, mais qui soit plus une représentation émotionnelle. Alors forcément, je n'ai pas choisi non plus des modèles qui soient difficiles. Hein. J'ai choisi des modèles quand même avec une belle plastique, mais tant qu'à faire, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même l'expression du regard.
Enfin, le danger que de prendre des modèles très beaux, c'est de les rendre moins beaux qu'ils ne sont au réel. Vous les sublimez ou pas ?
Ouais, ça serait prétentieux. C'est une quête, hein, en fait. J'ai pas la prétention de réussir à sublimer, mais c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que on peut être dans le réalisme, dans quelque chose de figuratif, mais avec quand même une certaine liberté, ne pas essayer de faire un copier-coller, c'est ce que je m'efforce de faire, et d'essayer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant au niveau émotionnel. Alors, c'est difficile, si j'avais les mots, j'écrirais, quoi. Mais en fait, mon médium et mon orthographe, ça reste la peinture. Donc, j'ai peut-être plus de facilité à exprimer quelque chose en peinture, plutôt que par les mots.
À quel moment on s'arrête de partir vers le bleu pour rester dans le gris et vice-versa ?
Ça, c'est surtout une histoire de photographe, ça. C'est-à-dire que ce qui me fascinait beaucoup quand j'étais gamin, c'est que je faisais de la photo en club, comme ça arrive quelquefois. Et on travaillait beaucoup le noir et blanc. Et on travaillait beaucoup les contrastes, les valeurs. On mettait de côté tout ce qui était couleur. Donc j'ai gardé 2-3 couleurs, bichromique ou monochrome, qui pour moi suffisent à mettre en valeur une expression, une attitude, un regard, et on ne se perd pas dans les couleurs. Enfin, personnellement, je sais qu'il y en a qui le font très très bien, mais personnellement, quand je mets beaucoup de couleurs, ça me perturbe énormément. Donc en fait, c'est aussi le but, c'est d'essayer d'être au plus proche de l'expression et non pas d'avoir trop d'effets colorimétriques, si je puis dire.
Alors justement, dans la photo noir et blanc, il y a le temps d'exposition qui va faire qu'on va avoir ces contrastes et tout. Là, c'est pas du temps d'exposition, c'est quoi ? C'est du couche par couche ?
Alors ça peut s'apparenter pour certaines compositions à des superpositions, des petits glacis, de jus, mais très 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 imperceptibles. Après, il y a peut-être un petit côté révélateur, effectivement, mais ça, tous les aquarellistes le savent. On est dans le frais, on est ce qu'on appelle nous le frais, c'est-à-dire que dans l'humide, il y a beaucoup de choses qui sont très, très lumineuses, très puissantes. Et au fur et à mesure le papier sèche, les couleurs deviennent beaucoup plus mates, beaucoup plus en deçà du... C'est-à-dire que les couleurs sont un peu éteintes. Mais ça, ça fait partie aussi du... Donc, on a toujours besoin de se dire, attention, je vais essayer d'être plus puissant dans mes choix de valeurs pour avoir, à la fin, quelque chose qui soit encore puissant au niveau des couleurs. Alors après, voilà, moi, je préfère ne pas me disperser avec des couleurs. D'ailleurs, l'exposition que je propose là est assez parlante pour ça. Mais j'aime la couleur, hein, mais voilà, c'est difficile à expliquer.
Alors, vous disiez, je ne suis pas photographe. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est une photo ou pas ? En l'occurrence, ça compte quand même que de se dire, allez, on sait que c'en est pas, mais ça... Ouais.
Ben là, l'idée de la photo, c'est la photo d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on cherche nous. Moi, ce que je recherche, c'est surtout de m'inspirer justement d'une réalité, donc garder le plus proche sentiment vers cette réalité, mais malgré tout, de ne pas aller trop loin vers cette réalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller jusqu'à à ce que ça soit aussi précis qu'une photo. Mais très souvent, je commence à partir d'un cliché et je demande, parce que j'ai deux nanas qui posent pour moi et qui sont chouettes, et je leur demande de continuer à poser avec les mêmes repères, de sorte à être un petit peu déstabilisé par le sujet, ne pas être trop précis. Et ça fait vibrer les choses.
L'avis du modèle sur l'œuvre, ça compte ou pas? Est-ce qu'un modèle peut dire non, là, ça ne me va pas, j'en veux pas? Est-ce qu'il y a une copropriété qui s'établit entre l'artiste et le modèle?
Bon, en fait, il y a déjà une complicité, hein, parce que si le modèle, si la personne, en fait, c'est un point de vue, hein. Si le modèle n'a pas de... S'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de charisme non plus vis-à-vis de ce que moi je recherche, on ne pourra pas travailler ensemble. Par contre, si ça fonctionne, effectivement, elle va avoir aussi son mot à dire. J'estime que le modèle, ce n'est pas qu'une potiche, c'est loin de là. Au contraire, par respect et aussi parce qu'elle est elle-même transfigurée dans mon travail, quelque part, elle a le droit de donner son... Et souvent, je les appelle ou je leur dis « viens voir ». Qu'est-ce que t'en penses? Et je suis un peu fébrile parce que j'ai toujours peur d'avoir... elles ont un regard très souvent assez affûté et très... Et c'est elles, en plus. Donc, il y a quelque chose de très intime, ce qui fait que leur avis m'apporte énormément. Mais ça ne remettra pas en question mon travail. Je vais peut-être en tenir compte, mais je vais quand même garder ma ligne parce que j'estime que c'est quand même quelque chose de très personnel. Nous, quand on prend les pinceaux... On n'a pas trop cette projection, je ne l'ai pas du tout, hein, savoir est-ce que ça va lui plaire ou est-ce que ça va plaire aux personnes qui vont regarder mon travail. Je vais être sincère, je m'en fous. C'est qu'après, ça m'intéresse de voir la vie quand on est en exposition, parce que là, du coup, là les personnes vont s'approprier, le public s'approprie votre travail, c'est plus le vôtre. Moi, j'étais dans un cocon, j'ai eu une action de peinture, je me suis transcendé du mieux que j'ai pu, mais après, ça ne m'appartient plus. C'est à chacun et je peux avoir des commentaires qui ne sont pas forcément sympas. Hein, ça, je suis prêt à les entendre. Hein, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Et quand j'en ai, je ne le dis pas, mais ça me titille un petit peu. Oui, ça peut arriver.
Ça peut te décoiffer. On en revient à cette histoire de coiffure.
Ouais, j'adore les cheveux, donc on peut en parler. Ouais, ouais. Bah, en fait, ça peut décoiffer, oui. Ouais, on va mettre un petit peu une allégorie là-dessus. Mais... c'est une image, ouais, c'est vrai. Mais j'ai un grand respect aussi pour le modèle, donc forcément, en général...
Le cheveu, il permet justement, si on revient à l'œuvre cette fois-ci, le cheveu, il permet d'exprimer le mouvement.
Ouais, tout à fait. C'est toujours le mouvement qui est un peu un but dans mon travail. Même si les poses sont poses classiques, je recherche toujours à faire bouger avec les cheveux, avec la vibration. J'utilise aussi un effet comme des pixels, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a des petits carrés comme ça, c'est comme un pochoir. Alors ça, je le fais depuis très longtemps... Mais je ne le fais pas systématiquement. Mais il y a des moments, ça amène un petit effet vibratoire. Et en même temps, ça fait comme si c'était inachevé. Un petit peu comme on capte comme une image télé, mais qui est de mauvaise qualité. Et d'un seul coup, elle va pixeliser. Alors, j'aime bien l'idée de finaliser avec cette trame.
Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer l'aquarelle ?
Voilà, ça c'était d'abord la peinture à l'huile qui m'a asphyxié dans mon atelier parce que il y a 35 ans à peu près... Je pensais que c'était le médium par excellence et après j'ai migré vers l'acrylique. Déjà au niveau du rythme de travail, je m'y suis retrouvé. Et après, je faisais beaucoup de petites pochades un peu maladroites à l'aquarelle. Puis j'ai compris que l'aquarelle, s'il fallait vraiment que je puisse travailler avec, ça m'a complètement aspiré. Et j'ai trouvé ce qui était chouette avec l'aquarelle, déjà le papier, travailler sur papier, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on est tous pareils, quand on a commencé à travailler sur papier, c'est magique. Et en plus, l'aquarelle, c'est un puits sans fond, quoi. On n'a jamais terminé de découvrir, c'est tout le temps une remise en question. Il n'y a jamais ah ça y est, j'arrive à quelque chose. Non, c'est toujours un peu l'école, tout le temps. Moi je suis à l'école tout le temps. J'ai 61 ans, ben, ça fait chier quoi. Mais je suis à l'école quoi, enfin bon, tout le temps.
Le papier, il arrive qu'il ait plus soif, il ne peut plus en avoir, qu'il devienne saturé en quelque sorte.
Ben après, il y a aussi, là on rentre dans les éléments techniques. Le papier, il a ses limites. Et quand on a beaucoup d'hésitations et quand on travaille de façon un peu fébrile son sujet, sa peinture, tout se voit. L'aquarelle, c'est un jus. Il y a quelque chose de très très lisible sur la. Si on a été à l'aise ou si on a été un peu fébrile, ça va se ressentir dans le travail. Moi, je le vois pour mon travail, mais je le vois aussi pour les autres, sans prétention. On voit tout de suite. Je vois quand j'étais faible. Où je sens que là j'étais un petit peu hésitant. Dès qu'il y a une hésitation avec l'aquarelle, de toute façon, ça se voit, ça se voit. Donc là, je le dirais pas, il y en a que quelques-unes qui ont des hésitations. Mais comme elles sont minoritaires pour moi, j'estime que c'est présentable. J'essaie de respecter aussi les personnes qui viennent, je veux pas non plus leur mettre des trucs et puis faire un gros blabla en disant « Oui, mais ça, je l'ai voulu ». On me l'a fait une fois, une dame qui m'avait fait une réflexion, qui m'avait dit « Oui, mais regardez le nez, là, tout ça ». Et en fait, au plus j'ai regardé cette aquarelle, je ne l'ai pas ici. Hein. Mais au plus, elle avait raison, quoi. Et je me suis dit, la vache, j'étais un peu orgueilleux, je ne lui ai pas dit, mais en fait, elle avait raison. Je lui ai fait un nez qui n'était pas du tout pas plausible. Enfin, bon.
L'éclaboussure sur l'épaule du modèle, pourquoi ?
C'est nouveau, ça. En fait, c'est un peu comme une petite signature. Comme je travaille souvent sale, dans mes stages, les personnes qui suivent mes stages me le disent, ils sont effrayés parce que j'ai un pinceau qui est gorgé de pigments et de couleurs, puis d'un seul coup, je ne le fais pas exprès, j'ai des gouttes qui tombent à côté. Alors, je veux assumer ce côté. Et il y a un petit côté tache de grain de beauté, vous voyez ? Tache de naissance. Alors là, j'en ai d'autres, mais que je n'ai pas emmené. Et on voit bien sur ces deux-ci, vous l'avez sur une épaule. Je trouve que ça vient. Alors après, c'est comme mon côté pochoir, pigment, enfin ces petits pixels, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais là, il se trouve que ça amène quelque chose, comme une petite signature, comme un petit tatouage. C'est bien dans l'air du temps.
Hein. Quand on se dit, allez, j'ai donc provoqué ça, vous savez que ça va fonctionner. Oui. Si ça ne fonctionne pas, c'est au contraire. On recommence, c'est pas grave.
Non, c'est vrai que j'ai eu gâché énormément de peinture en faisant. Alors, j'ai cette histoire de pochoir. Vous avez vu que quelquefois, on voit un effet de grain. Et ça, quand on a terminé une créa, quelquefois, on peut passer 3-4 jours parce qu'il y a toujours le petit coup de pinceau qui arrive à un moment. Et à la fin, très souvent, c'est là où j'amène l'effet pochoir. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc maintenant, je le sais, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à utiliser ça, je mets cette fibre, qui est comme une moustiquaire, sur mon travail frais, donc dans la peinture. Et après, je mets des planches, et je mets des poids, et je monte dessus. Alors ça, je vous le dis, entre nous. Hein, uh-huh. Mais quelque part, ce truc-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais démouler ça comme un gâteau. Alors à la fin, je retire tout ce bazar que j'ai mis. Et puis, en fait, j'ai tout bousillé. Donc ça m'est arrivé sur 10 trucs, quoi. J'ai bousillé 10 créas parce que, mais bizarrement, je me suis acharné et j'ai réussi à jouer. C'est pour ça que quand certaines personnes demandent comment je fais, j'ai pas trop envie de les emmener vers ça parce que si jamais ils ont fait une belle composition et puis qu'ils essaient de jouer avec cette fibre et que ça plante leur boulot, ils vont un petit peu m'en vouloir quelque part. Donc il faut assumer un petit peu ses choix et quelquefois ils sont un petit peu risqués. Puis on fait de la peinture, quoi. Je veux dire, c'est risqué, c'est pas grave, un peu d'orgueil en moins. On range un petit peu son amertume et puis on recommence, quoi.
Vous allez rester combien de temps sur Douai ?
Je pense jusqu'à la fin du salon déjà, ce serait pas mal. Et puis 2-3 jours après, parce que j'ai un frère qui habite près de Lille, donc ça va être l'occasion de voir la famille un petit peu.
Elle va ressembler à quoi cette semaine ?
Ben, ça va dépendre des échanges qu'on va avoir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler avec des personnes et puis de voir un petit peu comment ils perçoivent mon travail et puis d'échanger des petits moments d'humanité simples. Mais en ce moment, on en a vachement besoin, quoi. on est un petit peu en décalé par rapport à la réalité. On est un petit peu décalé, hein, mais on a toujours l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu futile ce qu'on propose quand on expose de la peinture à côté de l'actu. Mais il y a quelqu'un qui m'a renvoyé un petit message en me disant si ça a du sens. Ça permet de faire passer des choses un peu plus, des moments un petit peu moins douloureux, moins difficiles.
Churchill disait, si on baisse les budgets de la culture pour faire la guerre, on ne sait même plus pourquoi on fait la guerre.
Ah ouais, je savais pas qu'il avait dit ça, mais ouais, c'est vrai que c'est une belle image, et surtout vu le contexte de l'époque. Et malheureusement, on pourrait reprendre des phrases comme celle-là, ouais. Mais s'il avait moins consommé de cigares, peut-être qu'il aurait peut-être pu mettre un peu plus d'argent dans les... Non, mais je déconne, là. Bon, voilà.
En tout cas, bravo.
Ben merci, c'est gentil, j'ai été bavard, hein, j'en ai profité. Hein, voilà.
Et vous pouvez vous aussi aller discuter avec Pascal Pillon, il vous attend avec les autres aquarellistes dans ce salon international d'aquarelle proposé par l'association douaisienne Aquasol jusqu'à la fin de la semaine en entrée libre aux salles d'Anchin à Douai. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 105.